France Inter, il est un peu plus de 11h04, on retrouve la bande originale avec Nagui.
Merci Dominique Delaroy, on vous retrouve à midi pour d'autres infos, à tout à l'heure. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadhoubounadi, Daniel Morin, Albert Algout, Guillermo Guiz et notre invité Fabrice Santoro.
Merci.
Monsieur Fabrice Santoro, merci d'être à ce micro. Fabrice, on va parler bien sûr de Roland Garros. Fabrice Santoro étant l'ami de tous les plus grands joueurs du monde. On m'a dit même des vieux, vous avez croisé les plus grands joueurs. Quel est le joueur le plus impressionnant que vous ayez croisé?
Sur un court en compétition, c'est Jimmy Connors.
Jimmy Connors, d'accord.
Ouais, je l'ai joué, il a 20 ans de plus que moi.
Et évidemment, les Nadal, les Federer...
Les Sampras, Agassi, les... Becker, Lindell, Kuerten, Moya...
Vous avez joué contre tous ces noms-là?
Tous ces noms-là, et j'ai pas joué contre la génération Borg-McEnroe.
D'accord, à part des tournois d'exhibition pour rigoler. Vous avez remarqué que j'ai jamais demandé le résultat du match. Père Albert, vous savez pourquoi on a invité Fabrice Santoro?
Mais enfin, Nagui...
Oui, mon père.
Croyez-vous que j'aurais pu oublier... La grand-messe du tennis célébrée dans ces temples de la roquette qu'est Roland Garros.
De la roquette?
La roquette. La
roquette.
Vous savez.
Mais j'étais avec la salade.
J'ai l'accent circonflexe facile. Eh bien, un tournoi qui, en ce moment, ne vous laisse guère, d'ailleurs, le temps de préparer les émissions de la bande originale. Pas plus que le reste de l'année, d'ailleurs, mais enfin, particulièrement en ce moment. Ce que m'a confirmé JNB, notre rédac-chef, qui s'est confié à moi ce matin en pleurant des larmes de sang. « Père Albert, je n'en peux plus. Depuis le 22 mai, après chaque émission, j'essaye en vain de retenir Nagui pour lui parler du prochain invité. Par exemple, quand je lui ai annoncé que Fabrice Santoro viendrait, il a hurlé « Rien à foutre, rien à battre !» Et il a quitté le studio en bousculant ses fans qui lui demandaient des autographes en leur criant « Pas le temps, je vais à Roland, foutez-moi le camp !» Effectivement, j'ai une bière de quoi s'inquiéter. 40 ans qu'aumônier saisonnier des jeunes ramasseurs de balles.
Votre orthophoniste aussi un peu s'inquiéter sur l'articulation.
Vous avez une balle dans la bouche.
Ouais, je comprends pas tout, mais faites des gestes.
Moi aussi, je les ramasse à ma façon. Et donc, en tant qu'aumônier saisonnier des jeunes ramasseurs de balles, oui. Je peux attester la présence de Nagui dans la fameuse tribune présidentielle où il est à tu à toi avec Patrick Bruel et Orlando, tout en se faisant éventer avec des plumes d'autruche par des hôtesses moldaves. Mais passe encore qu'il se passionne pour les matchs où s'affrontent virilement les as du smash et du revers. Ce qui m'a choqué, c'est l'attention soutenue avec laquelle Nagui assiste aux simples femmes, aux doubles femmes, et même aux doubles mixtes, catégorie où Fabrice Santoro s'illustra, jadis, à Roland Garros, en l'emportant avec Daniela Antuchova.
C'est ça? C'est vrai?
Oui. Je confirme.
Ah, mais bien sûr. Oui.
Il fallait quand même pas m'enlever mon seul titre à Roland Garros.
J'ai eu l'élégance de ne pas le souligner. Oui, j'ai honte de le rapporter, mais j'ai vu Nagui se pâmer en entendant les cris indécents. Que poussent ces boules de vis? Cela en fonction des doses d'anabolisants. C'est pour ça que je suis passé de l'aigu au grave. Parfois, la même joueuse peut passer de l'un à l'autre. Oui, j'ai vu Nagui, le rouge aux joues, suivre avidement du regard le mouvement des jupettes quand, après avoir soupesé les balles d'une main tout en empoignant vigoureusement le manche de l'autre, les tennis woman lève, se déhanche pour servir. Ah, si les balles des joueuses vont parfois au fond du filet, je peux vous dire que Nagui a les siennes constamment.
Oh non, merde.
Et comme je n'ai plus le temps de vous faire...
On a un collège.
Oui, ça m'intéresse, je sais.
Oui, c'est ça. J'ai honte.
Pourtant, t'es
elle a beaucoup ri. Et comme je n'ai plus le temps de vous faire le pitch,
oui.
Je vous souhaite à tous...
Mais quel pitch de quoi?
Et à toutes. Et d'habitude, je fais un pitch, donc...
Oui, quand il y a un film, de quand il y a une pièce de théâtre, vous n'avez pas
fait
le pitch.
C'est à Roland Garros. Voilà,
ok, d'accord, merci. Merci, Albert.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Fabrice Santoro, vous vous souvenez de votre premier tournoi professionnel? Ça remonte à longtemps, c'était où?
Trop longtemps, 1989.
Oui. Il y avait plus de raquettes en bois à l'époque, rassurez-moi.
Alors, non, pas en 89, mais j'ai commencé à frapper mes premières balles, donc en 60... 18 avec des raquettes en bois.
C'est vrai. Ouais. Yannick Noah étant le dernier joueur professionnel à avoir gagné Roland Garros avec une raquette en bois. Après, c'est devenu
c'est des chèques en bois.
Du synthétique. Ça, c'est... Assume tout seul tes vannes. Moi, je vais dire, je connais Yannick, je veux pas avoir de problème. C'est toi qui vas te démerder. D'ailleurs, Yannick, si tu nous écoutes, j'ai le numéro portable d'Albert Agou pour toutes les salles que tu as reçues.
Mais je plaisantais.
Tu pars trop tard. De tout le parcours tout à l'heure, on parlait de cette victoire en mixte à Roland Garros que vous aviez eue. Vous avez également remporté la finale de la Coupe Davis en double avec Cédric Pioline. Vous avez participé et vous avez remporté 70 tournois du Grand Chelem, c'est-à-dire vous êtes le seul joueur au monde à avoir disputé 4 décennies et autant de matchs. C'est un record mondial.
Exactement, je crois que je suis le seul joueur à avoir joué des tournois du Grand Chelem sur 4 décennies, donc de 89 à 2010. Le précédent record était détenu par André Agassi qui avait joué 61 Grand Chelem.
Oui, qui avait une perruque, enfin tout ça, il y a eu des scandales. Ouais. Alors que vous, c'est
une jambe de bois.
Ce sont vos cheveux, rien à voir.
Mais ce record sera battu très
mécaniquement,
prochainement.
Pourquoi?
Parce que Roger Federer est à 69. C'est pour ça qu'il ne joue pas Roland Garros, je lui ai demandé de ne pas venir.
Pour que votre record...
Je ne voulais quand même pas qu'il batte mon record devant mon public.
L'engouement du tennis et de ces tournois du Grand Chelem n'a jamais baissé, c'est quelque chose d'essentiel. Alors je ne sais plus vraiment si c'est une valeur sportive ou si ça devient maintenant du marketing, du commercial, et tant mieux d'ailleurs pour ceux qui en vivent et en profitent, mais on a l'impression que c'est un gros barnum de sponsors, de relations publiques. Vous qui avez vécu tous ces tournois, est-ce que c'est la même, ruche comme ça qui autour de Wimbledon, autour de l'Open d'Australie et Roland Garros, il y a autant d'activités marketing, publicitaires et
autant plus sur des tournois du Grand Chelem comme Wimbledon ou l'Open d'Australie. Après, le sport est devenu beaucoup plus professionnel depuis 20-25 ans, donc j'ai eu la chance ou la malchance de voir cette transformation de 90 à 2010. C'est vrai qu'aujourd'hui, Roland Garros, c'est un immense paquebot. Je crois que le tournoi fait peut-être 350 millions de chiffre d'affaires sur les 15 jours.
D'accord.
Il y a énormément d'enjeux pour les joueurs, énormément de médias qui viennent du monde entier. Moi, j'ai arrêté ma carrière il y a 7 ans. J'ai l'impression d'avoir arrêté il y a 50 ans. À titre d'exemple, les gains...
Les choses sont allées vite
Les gains reversés aux joueurs ont augmenté de 140% depuis que j'ai arrêté ma carrière.
Ah, c'est con.
Dommage. Un petit comeback.
mais voilà, au-delà de ça...
L'augmentation des gains, par exemple, des joueurs, qu'ils gagnent Roland Garros et qu'ils gagnent de l'argent avec le trophée, très bien. Pourquoi cette augmentation? Quand il y a une augmentation de gains ou de droits sportifs, c'est parce qu'il y a une concurrence, c'est parce que tel ou tel fournisseur d'accès à Internet a voulu racheter des droits. Alors on se dit, bon, tout augmente, tout monte, donc il faut payer plus cher pour avoir les droits. Là, Nadal, Federer, qu'il gagne Roland-Garros ou qu'il ne vienne pas à Roland-Garros, en quoi le fait de dire vous allez gagner beaucoup plus d'argent peut changer le spectacle, peut changer le jeu, peut changer la présence de ces joueurs? C'est un incontournable, c'est un tournoi du Grand Chelem.
Bien évidemment, ce qui compte sur les tournois du Grand Chelem, ce n'est pas les gains reversés aux joueurs, c'est vraiment une ligne sur un palmarès, quoi. Donc Roger Federer, Rafael Nadal et d'autres ne viennent pas à Roland-Garros pour remplir leur compte en banque, mais bien évidemment pour gagner un tournoi majeur. Après, je crois que les joueurs, à mon avis, sont pleins, car ils disaient, voilà, les tournois du Grand Chelem ont tant de chiffres d'affaires, tant de bénéfices. Finalement, nous, avec
vous gagnez
ces gains-là, on est exploités.
C'est ça, d'accord.
Alors qu'ils étaient déjà très bien payés. Moi, je me plains pas, j'étais très bien payé à mon époque. Donc, ils se sont battus semaine après semaine pour améliorer et augmenter les gains. Et
aujourd'hui, il y a un syndicat des joueurs qui est allé voir les organisateurs en disant au prorata de ce que vous dégagez comme argent, il faudrait que nous aussi on mange.
C'est pas normal que la part du gâteau reversée aux joueurs soit si petite.
Après, parler d'exploitation, c'est quand même toujours un petit peu.
À un certain niveau, s'il y en a qui se gavent encore plus, c'est pas normal que.
Oui, non, mais je veux dire, au regard de la vie,
il y a 50 ans, les ramasseurs de balles étaient pieds nus. Maintenant, ils ont des chaussures grâce à l'évolution.
Homme-femme d'ailleurs, est-ce que là aussi il y a un équilibre entre la finale femme remportée? Enfin, le gain pour une
parité
une
joueuse, totale.
Parité totale.
Oui, du premier tour à la finale.
C'est génial. Et ça, c'est récent ou c'est une décision qui a été prise sur les dernières...
Ça va faire une dizaine d'années environ.
D'accord.
Une dizaine d'années, je crois.
Ça fait 9 ans, je crois.
Alors, maintenant, vous êtes... Daniel Morin qui s'y connaît en parité homme-femme.
Oui, mais c'est Fabrice Abgal qui a soufflé la réponse en langue des signes.
Oui, parce que j'ai dit à Fabrice qu'il ne pouvait intervenir que dans une demi-heure, donc il est professionnel, Fabrice. Il dit, ok, je n'interviens que dans une demi-heure.
Dire, hein.
et il n'est pas là, Fabrice.
Bonjour Fabrice.
Il plane. Bon, bah, bonjour.
Pour revenir sur l'évolution du sport en général, aujourd'hui, moi, quand j'ai commencé dans les années 90, un joueur, il arrivait sur un tournoi avec son entraîneur. Ouais. Basta, ils étaient deux. Vous prenez deux billets d'avion, vous allez jouer un tournoi. Aujourd'hui, c'est des PME.
Des staffs entiers. Ouais.
Alors, ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir justement pour vous, Fabrice, ce qui se passe dans l'après carrière sportive, parce que mécaniquement, une carrière sportive de haut niveau dure. J'allais dire peu de temps, non, parce qu'il commence de plus en plus jeune. Donc en moyenne, c'est quoi? C'est une vingtaine d'années, un peu moins, 15
moyenne
ans.
Moyenne à 12-15 ans, ouais. Je pense.
15 ans de présence sur les cours. Federer risque d'être aussi l'un des joueurs qui joue le plus longtemps?
Probablement, puisque Federer, il a
112
35 ans sur son passeport, mais je dis souvent, il en a 25 dans ses jambes et 15 dans sa tête, donc c'est un avantage colossal.
Physiquement, il est impressionnant?
Il a la fraîcheur mentale d'un adolescent.
Ça, c'est la vie en Suisse, ça.
Non, mais ça conserve, c'est hein. L'herbe fraîche.
Ouais, c'est ça,
hein. Les pâturages.
Vous connaissez, vous, en herbe fraîche.
Mais quand on voit Federer dans un vestiaire ou sur un cours. Quand on voit Federer sur un court de tennis ou dans un vestiaire, on a l'impression qu'il vient de débarquer, qu'il a jamais vu un court de tennis et qu'il va jouer son premier match. Il est ultra frais.
Et à quoi vraiment. Ça tient, d'après vous?
Il a une passion totale pour. Pas seulement le tennis, c'est toute la profession. C'est-à-dire qu'il aime s'entraîner, il aime matcher, il aime répondre à des journalistes, il aime consacrer des heures à des partenaires, il aime tourner des spots publicitaires, il aime signer des autographes, il aime 100% de la profession.
La rumeur dit que c'est le plus gentil de tous les joueurs. Vrai, faux?
C'est un gars à part, c'est un gars formidable, c'est quelqu'un qui...
Ok, l'homme de bois, t'as vu le mec qui est
non,
pas
non,
dit.
Non, mais Roger, c'est le joueur, c'est un gars à part.
C'est une super bagnole.
Fabrice Abgral.
En langue des signes, Fabrice Abgral a dit autre chose.
Non, Roger
est très gentil.
Il est hyper
gentil. C'est pas le plus gentil, on va dire.
Il a un ego important, ce qui est nécessaire pour tous les grands champions. Mais c'est un hyper gentil, c'est simple. Je crois que le tennis est un sport encore plus que n'importe quel autre qui rend hyper humble. Parce que chaque semaine, on prend des claques quand on est joueur de tennis. C'est-à-dire que là, Roland Garros, il y en a 128 qui jouent, il y en a 127 qui vont perdre.
Donc, oui, c'est vrai.
Donc il y en a 127 qui vont se remettre se reconditionner, qui vont se remettre en question quelque part.
Bah si, pourquoi tu me dis non, Daniel?
Mais non, mais il y en a la moitié qui passe.
Il y en a qu'un qui gagne.
Ah, au bout du compte, je crois que c'est la journée.
Sur Roland Garros, il y en a 127 qui vont perdre.
Tu comprends que tes vannes, tu comprends pas les vannes des autres.
Non, c'est ça. Mais je bloque. Je n'aime que
donc,
moi.
Donc voilà, donc le 12 juin, eh bien, il y en a 127 qui diront, bon ben, on a pas réussi à soulever le trophée. Et c'est comme ça chaque semaine. Après, ils vont partir au Queens, il y en aura 32, il y en a 31 qui vont perdre.
C'est comme club.
Chaque semaine. Donc forcément, ça rend hyper humble. C'est un espèce de combat de boxe, des espèces de gros face-à-face où au milieu d'une arène où c'est très exigeant, très compliqué sur le plan mental. Un jour, on a le public avec soi. Le lendemain, on se fait siffler pendant tout un match. Enfin, il faut se remettre au boulot en permanence. C'est pas simple.
Alors justement, comment gérer l'après? C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez décidé de ne plus jouer dans les tournois professionnels, de continuer de jouer, quelle a été votre démarche? Est-ce que vous étiez préparé? Vous aviez fixé cette date? Vous aviez dit précisément à tel âge, j'arrête? Ou si à tel classement, j'arrêterai? Quel a été le signal pour que vous raccrochiez les raquettes?
Moi, le signal n'a pas été en termes de classement, puisque quand j'ai arrêté, j'étais 50e mondial. La seule chose, c'est que ça faisait 21 ans que je voyais ma valise dans la chambre, chez moi, et j'en avais marre. Je voulais juste ne plus voir ma valise, parce que chaque semaine, je faisais une valise, je la défaisais. Et 8 mois par an, j'étais à l'hôtel, et j'avais plus la force de voyager, j'avais plus la force d'aller m'entraîner, car pour être capable de jouer devant 15 ou 20 000 personnes sur les gros tournois, il faut être capable de s'entraîner 4-5 heures par jour dans les sous-sols, quoi. Sinon, ça sert à rien, on est ridicule devant le public. Et moi, j'avais plus cette force-là, et on m'avait dit, Fabrice, le jour où tu n'auras plus envie de...
Et là, c'est une force mentale, pardon, c'est pas physique.
C'est pas physique du
tout. C'est mental, d'accord.
On m'avait dit, le jour où tu n'auras plus envie d'aller t'entraîner, arrête, parce que tu vas prendre le mur. Et donc, j'ai décidé d'arrêter alors que j'étais 50e. Et je regrette pas du tout cette décision, puisque je pense que quand on est sportif de haut niveau, il y a trois façons de mettre un terme à sa carrière. Soit vous êtes sur un lit d'hôpital avec une énième opération du dos ou de l'épaule, et à ce moment-là, les médecins vous disent jette l'éponge parce que tu pourras jamais revenir. Donc c'est très difficile à accepter parce que c'est pas votre décision. Soit vous passez de la 20e à la 50e, puis la 100e place mondiale, à ce moment-là, c'est la concurrence qui vous met dehors. Donc pour l'ego, c'est pas facile. Soit vous décidez de vous-même. Et j'ai choisi cette troisième option qui me semble être de loin la meilleure.
Et quand vous avez décidé d'arrêter, vous aviez pensé avant à l'après? C'est-à-dire, vous avez dit, j'ai envie d'être entraîneur, j'ai envie d'être consultant à la radio ou à la télévision, j'ai peut-être proposé mes services à la Fédé pour encadrer une équipe de France de Coupe Davis. Enfin, qu'est-ce que vous aviez envie de... Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? Parce que le problème,
être
c'est
prêtre.
Que il y a plus de, pardon l'expression, mais il y a plus de retraités sportif que de poste. Donc à un moment donné, il faut bien choisir.
En fait, moi, pendant ma carrière, je me suis régalé. C'était à refaire, je faisais exactement la même chose, mais j'avais beaucoup de frustration quand même, parce qu'on fait que ça, en fait, du matin au soir, et dès qu'on a deux heures de break, il faut se reposer, puis quand on a fini de se reposer, il faut aller se faire masser, puis s'entraîner. Et en fait, on n'a pas de place pour une autre activité. Donc j'avais toute une liste de choses que je voulais faire en fin de carrière, et je suis très occupé aujourd'hui. Je fais effectivement de la télévision, je travaille beaucoup sur Bein Sport.
Consultant pour ITV, pour Roland Garros.
Les 15 jours de Roland Garros, je les commente en anglais, donc sur ITV Sport.
Ça, ou pas ça calme un peu. Oui. Ouais, il y a un mec qui vient de Londres, c'est tout, mais sinon.
Dans le public.
voilà, ensuite, pour l'organisation du tournoi, j'interview les joueurs, donc sur les principaux cours, le central et le Suzanne Lenglen. Donc je rentre sur le cours après. Pour le public, c'est diffusé donc, dans le stade et puis sur, je ne sais pas dans combien de pays en direct. Et puis je fais des matchs exhibition parce que je rêvais de jouer un double avec vous. donc on joue régulièrement ensemble.
Mais blague à part, quand ces occupations, dans les possibilités qui vous étaient présentées, c'est d'abord le consulting, le commentaire à la télé ou à la radio qui vous attirait?
Moi, je voulais vraiment travailler dans les médias. J'avais vraiment, j'ai toujours passé beaucoup beaucoup de temps à analyser mes matchs et ceux des autres, donc je voulais partager cette analyse avec le grand public.
Alors qu'il détestait venir en conférence de presse.
Non, j'étais un très mauvais client. Non, mais très mauvais client, hyper timide. J'arrivais de ma province, je voyais des micros partout, je savais pas ce qui m'arrivait. Quoi.
Et le fait d'être un ancien joueur et de tendre son micro en posant une question, ça ouvre des vannes, ça facilite la réponse, c'est-à-dire celui qui est en face, il sait que vous savez, il sait de quoi vous parlez, ça vous obtenez plus qu'un journaliste comme Fabrice Abral?
Il n'obtient rien, lui.
Mais bien sûr, je serai jamais aussi bon qu'un professionnel, parce que j'ai pas la formation. Mais j'obtiendrai plus qu'un journaliste, c'est évident. Parce que,
humainement.
Parce qu'à partir du moment où le gars me voit arriver, déjà il me tape dans la main, il est content, on s'est joué, on s'est croisé dans le vestiaire deux heures avant. Il sait que je suis pas là pour le piéger. Il sait que je suis là pour valoriser son travail, à l'inverse d'un journaliste.
Non, mais
vous êtes resté avec bien, quoi. Voilà.
Non, mais voilà, je suis pas là pour. Je suis là
journaliste pour... sportif, il piège rarement, quand même. Ouais.
Hein, non, mais parfois.
Il y a un mot trop dangereux.
Moi, je vais pas aller le titiller là où ça peut faire mal sur un fait
sait,
de jeu.
Est-ce qu'un joueur sait que vous savez des choses que vous ne direz pas parce qu'il y a un respect mutuel et il y a des choses qui doivent rester dans le vestiaire, comme on dit, et pas
bien
sortir?
Sûr, bien évidemment.
Quoi, par exemple?
Trop fort.
Ok, j'aurais essayé.
C'est sûr, quand on a le même dealer, c'est difficile de faire.
Il y a encore des scandales de dopage dans le monde du tennis?
Il y en a dans tous les sports, donc je vois pas pourquoi le tennis serait complètement épargné.
Je sais pas, j'ai raté. Il y a une info
Non, apparemment, Nadal a tout pris, donc
ça ne peut rien pour lui. Il est chargé? La rumeur, c'est Nadal est chargé?
Mais non.
Daniel Morin, assume ce que tu viens de dire.
Non, mais le truc, c'est quand on parle de dopage, il faut amener des preuves, parce que ce sont des sujets qui sont trop graves, quoi.
Alors, déjà, physiquement, je peux pas le rattraper, Nadal, pour faire un prélèvement, une petite biopsie.
Et Rafa est un immense joueur, et je sais très bien que tout à l'heure, quand Fabrice Abgral parlait du joueur le plus sympa du circuit, le plus sympa du vestiaire, il faisait référence à Rafa.
Ah, vous pensez
à Rafa?
Qui est un
mec fantastique.
Et c'est pas parce qu'il... incroyable. Et mais c'est au-delà pas parce qu'il de ce qu'on peut imaginer, même.
Non, mais
c'est pas du tout l'image qu'il donne, en plus. Non. Sur le terrain, etc. Si, sur le terrain. Parce que
il a pas l'image d'un mec méchant non plus.
Non, par rapport à Roger Federer, voilà, t'imaginerais que...
Roger Federer, il paraît plus lisse que Nadal. Sur le.
C'est-à-dire, Federer joue l'élégance et Nadal, le côté méditerranéen. Avec
un peu bad boy quand il a débuté. Puis en plus, il... Bon voilà, il gênait un petit peu la carrière de Federer. Bon, donc tout le monde était pour Federer. Puis Nadal il était venu un petit peu perturber tout ça. Donc le public a pris fait et cause pour Federer et pas pour Nadal. Et puis bon, progressivement.
Donc vous avez une tendresse pour Nadal.
Ah, moi j'ai une tendresse pour Nadal. Tendresse.
Vous faites un sondage dans les coulisses de n'importe quel tournoi au monde. Rafa fait l'unanimité. C'est un gars qui est extrêmement bien éduqué, simple, humble, à un niveau qui est presque anormal.
Louche.
Il a quand même gagné 14
Louche.
Grands Chelems. 9 Roland Garros, c'est-à-dire que là il est à 5 matchs de remporter un 10e Roland Garros. 10 fois le même tournoi de Roland Garros. Nous on n'a pas gagné un grand chelem en France depuis 83. Il a gagné 10 fois le même.
C'est... Ok, ça va, c'est pas notre faute non plus.
Non, mais moi j'ai eu 70 chances, donc je peux en parler.
Et là, on parle des anciens joueurs, mais en termes de comportement, récemment, on a vu un joueur français s'illustrer de la pire des manières en présence d'une journaliste lors d'un direct.
Qu'il a forcé à l'embrasser alors qu'elle ne le voulait pas.
Voilà, il l'a embrassé à plusieurs reprises, il l'a serré contre lui. Alors au départ, elle l'a repoussé d'un... sincèrement, elle a essayé de le remettre en place à plusieurs reprises. Elle a écrit ensuite derrière que ça l'a pas du tout amusé, mais qu'elle était en direct en train de faire son travail. Bon, là justement, en termes de comportement, on est bien loin d'un Federer ou d'un Nadal, j'imagine.
Avant d'avoir la réponse de nos deux Fabrice.
J'ai pas posé la question encore.
Non, mais je sais.
Mais ça n'empêche pas de donner la réponse. Oui,
c'est pas une réponse. Je connais pas ce joueur, mais il a l'air d'abord extrêmement jeune et je pense qu'il n'était pas dans son état normal.
Oui, sauf que sauf que tu vois, Nagui, c'est deux mauvaises raisons.
Ça n'excuse pas.
L'âge, l'état d'ébriété, si on commence à justifier qu'un homme, par exemple, agresse, viole une femme parce qu'il est bourré.
Mais ne me prête pas des propos.
Ça pose un petit problème.
Ne me prête pas des propos que.
Peu importe l'âge, le comportement à l'égard d'un de ses semblables ne doit pas, à mon sens, être variant selon ton âge et ce que tu as bu.
Qu'est-ce qu'il risque d'ailleurs, ce joueur?
Il s'est fait exclure, hein.
Oui, non, mais
tout d'abord, on lui a retiré son accréditation parce que ce qu'il a fait
de Roland Garros.
De Roland Garros, mais parce que je pense que la procédure est en cours et c'est loin d'être terminée. Après, on parle d'un jeune joueur, mais on parle pas non plus d'un ado. Hein, il a 23 ans.
Bah ouais.
Je croyais qu'il en avait.
À 23 ans, quand même, il faut, on doit savoir se tenir.
On est adulte, ouais.
Puis quand bien même, t'as 16 ans, tu sais te tenir.
Voilà, 23 ans, je veux dire, il pourrait être père de famille, donc son comportement est grave, donc il sera puni, c'est normal. Après, moi, ce qui me gêne, c'est que j'ai eu l'habitude de voir ce genre de comportement dans d'autres sports que le tennis, quoi.
Oui,
donc,
j'ai pas envie que ces gens-là, j'incrimine pas le tennis en particulier. Il s'avère que là, l'actualité fait que ça tombe en plein tournoi. C'est un Français. C'est l'image à un moment aussi.
C'est très grave, parce que
ça entache tout le monde.
Puisque vous êtes sur une chaîne anglaise, que dit la presse anglaise ou internationale?
Un sujet comme ça, polémique au milieu de Roland Garros, forcément la presse internationale s'en mêle, les politiques en France s'en sont mêlés également, et oui, ça buzz énormément. C'est le dérapage le plus public qu'il a eu ces derniers jours, mais il y en a eu d'autres
qui étaient moins publics, vous voulez dire?
Il y en a eu d'autres dans les coulisses, il y a eu des comportements un petit peu gênants.
Pour généraliser, on va pas faire le procès de ce monsieur, parce que je pense qu'il va vraiment avoir des soucis et que d'autres vont s'occuper de juger et de condamner ce qui s'est passé. Et on est tous d'accord autour de cette table pour dire qu'il mérite une punition. Le plus gros problème pour un joueur, quel que soit son âge, d'ailleurs on commence à quel âge maintenant quand on se destine à une carrière professionnelle?
Un peu plus tard qu'avant, puisque ça demande des
3 ans.
Facultés physiques plus importante qu'il y a 25 ans, mais je ne trouve pas aujourd'hui le joueur le plus jeune de Roland-Garros de peut-être avoir 18-19 ans. Alors qu'à 30 ans, on gagnait des grands chelems à 17.
D'accord, et on se destine à devenir professionnel à 12 ans, 13 ans? Dans les sports-études, dans le...
C'est difficile à dire, en fait, parce que chaque année...
À quel moment ça s'est passé? Parce que votre père a été aussi votre entraîneur. À quel moment, dans la famille, tout le monde s'est dit, mais étant donné le don, plus l'énergie au travail, parce qu'on rappelle qu'il y a énormément de travail, c'est pas que être doué, c'est aussi travailler énormément, à quel moment vous avez dit, ok, je vais soulager peut-être mon planning en termes d'école, d'études, de bac, que sais-je, et tout faire en sport-études et tout faire pour être pro?
Alors moi j'ai touché ma première raquette à 6 ans et puis là je demande au public de se boucher les oreilles mais j'ai pas pu commencer ma seconde en fait.
Faut dire qu'on a un collège avec en moyenne vous avez quoi? 13 14 ans? 14-15, excusez-moi, pardon.
C'est le troisième, attention.
Tu dis Bougival, troisième, 18 ans.
Donc autour de 14-15 ans, voilà. Ça veut dire
moi j'ai terminé ma troisième, mais je n'ai pas même pas commencé la seconde, puisque je suis passé pro au même moment. Et je me souviens d'une réunion entre mon entraîneur...
Donc à leur âge?
À leur âge, j'ai arrêté mes études. Ça s'entend,
la
j'imagine.
Chance,
la tête qui font. D'accord.
Donc voilà, mais moi je me souviens
avec papa, maman qui étaient totalement d'accord pour ça.
Alors moi je me souviens d'une discussion très claire à Roland Garros avec mes parents et mon entraîneur de l'époque, et mon entraîneur m'a dit voilà Fabrice, tu as l'âge pour passer pro, tu peux jouer les tournois majeurs, t'as le niveau, et donc dans ce cas-là, si tu veux vraiment donner toutes les chances, il faut arrêter tes études. Et donc moi j'étais un bébé, excusez-moi, mais voilà, ils sont encore très jeunes sous nos yeux, et j'ai demandé à mes parents, plutôt à mon père en fait, ce que je devais faire. Et mon père m'a dit, c'est ta décision. Je dis, ok, mais bon, je suis très jeune pour prendre une décision aussi.
On est en 86-87, là.
Exactement. Et je lui dis, non, mais aide-moi. Et il m'a dit, écoute, choisis ce que tu veux, mais quel que soit ton choix, fais-le à fond. Et c'est en fait, c'est quelque chose qui a guidé ma vie dans tout ce que je fais. Voilà.
Toujours le faire. Fabrice Santoro.
Vous regrettez pour l'école, par exemple? Je sais pas, est-ce que vous avez la sensation que...
Vous savez lire, vous êtes con. Non, parce que justement,
être comme ça, un futur joueur professionnel, j'imagine que, vous avez développé une maturité aussi qui dépassait celle des gens de votre âge, parce que vous avez des responsabilités, l'entraînement, etc. Mais je me demande si, à un moment, vous êtes père de famille, si vous vous êtes pas dit, ah, peut-être que j'aurais pu en parallèle mener une scolarité un peu plus longtemps. Est-ce qu'il y a un rapport à ça dans votre chemin?
Peut-être oui, pas, je peux toujours avoir des regrets, mais je pense que la vie est faite de choix. Et moi, j'ai dû choisir à un âge qui est plutôt... C'est anormal de devoir faire des choix graves à cet âge-là.
C'est pas facile. Hein.
Et j'ai aucun regret. Mm-hmm. Après, les études, c'est fantastique. Se former dans des classes, c'est une manière d'avancer dans sa vie, mais c'est pas la seule.
Bien sûr.
Et je crois que quand on est livré à soi-même avec sa valise 8 mois par an à travers le monde, on se forme d'une autre manière.
Vous auriez fait quoi si vous n'aviez pas été joueur de tennis professionnel? L'un des rêves justement quand vous étiez gamin.
Difficile à dire. J'ai toujours été passionné de magie. J'ai toujours été passionné d'immobilier. Voilà.
Magie et immobilier.
Ouais, ça n'a rien à voir, je sais.
C'est un peu pareil. Les escamoteurs.
agent immobilier à Monaco. Oui.
Passionné d'immobilier quand on est enfant, c'est marrant.
C'est bizarre. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours regardé des annonces à droite.
Ça veut dire qu'il aimait jouer au Monopoly avec les hôtels, c'est tout.
Mais en fait, est-ce que je me suis réellement posé la question de notre métier? Non.
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 Ça arrivait trop tôt.
6 ans, j'ai pris ma première raquette. À 7 ans ou 7 ans et demi, j'ai soulevé ma première coupe. Et puis, champion de France à 9 ans, 10 ans, 12 ans, les championnats d'Europe, championnats du monde.
À 6 ans, on prend sa première raquette parce que papa, maman jouent déjà au tennis, parce qu'on a la famille, parce que comment ça se présente?
Parce que mon papa est enseignant, éducateur de tennis, et qu'un mercredi, je vais le chercher avec ma maman à la fin d'un cours. Et comme on arrive un petit peu en avance, ma maman me dit, écoute, pour patienter, si tu veux, il y a une raquette. Et j'attrape une raquette qui traînait sur un terrain. Et à cet âge-là, à cette époque, donc en 1978, il n'y avait pas des raquettes, des mini-raquettes.
Pour enfants.
Enfin, des raquettes pour le mini-tennis avec des balles soft. Et donc, j'ai attrapé une raquette d'adulte qui était beaucoup trop lourde pour moi.
60 kilos.
Voilà. Le seul moyen de la soulever était de la prendre à deux mains, d'où ma particularité.
Voilà, de tout faire coup droit et revers à deux mains.
Alizée Cornet a disputé son premier Roland-Garros. Elle avait 15 ans. Elle reste encore aujourd'hui la plus jeune joueuse de l'histoire à avoir remporté un match à Roland-Garros. Elle avait joué donc, c'était en 2005, elle avait 13 ans, elle participe à son 13e Roland-Garros cette année. Elle avait passé le premier tour, elle avait été battue au deuxième par Amélie Mauresmo.
Est-ce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de formateurs, d'entraîneurs ou d'adultes qui cherchent à sculpter comme ça leur enfant en disant oui, je vais faire de toi un champion, je vais faire de toi
bien
une
sûr,
championne.
Bien sûr que ça existe.
Avec tous
bien
les dangers sûr. Que ça comporte, c'est-à-dire que l'enfant ne soit
bien
pas
sûr
d'accord.
Que ça existe. Oui, le plus connu c'est Walter Bartoli avec Marion par exemple. Il y a aussi le père de Caroline Garcia.
Enfin, Richard Williams.
Oui, Richard Williams, le père des sœurs Williams. Oui.
Mais lui, il dit je veux deux filles pour en faire deux championnes. Il les a amenées à la première place mondiale toutes les deux.
Bien sûr.
Oui, mais ça, elles étaient d'accord et ça a fonctionné. Moi, je parlais
au début, elles étaient pas d'accord parce qu'elles n'étaient pas nées encore.
Ah d'accord, la décision était prise avant la naissance.
Ouais, avant la naissance.
Ah ouais, ça ne savais pas. Ouais, d'accord, okay, c'est violent.
Ça se voit plus chez les femmes que chez les hommes d'ailleurs.
C'est-à-dire que c'est très rare en fait qu'il n'y ait pas un père derrière une championne.
Ah oui,
il y avait le père de Steffi Graf, le père de Monica Seles, le père de Capriati, le père de Marie Pierce, le père de Williams, Garcia, Bartoli. Enfin, il y a 1000 exemples.
Mauresmo, non, si.
Non.
Son père, non.
Non, non.
Non, c'était elle toute seule. Vos oreilles ont sifflé quand on vous annonçait la venue de Fabrice Santoro, Leïla. Je vous réveille.
Oui. Et quand je pense à vous, Fabrice, non, je pensais à cette histoire de père toujours derrière une joueuse pour en faire une championne. C'est vrai que c'est des destinées un petit peu particulières quand même.
Des rapports aussi, forcément.
Ouais, des rapports un peu particuliers. Donc quand je pense à vous, Fabrice Santoro, je pense à ce score. 6-4, 6-3, 6-7, 3-6, 16-14.
16-14.
J'ai encore mal aux jambes.
C'était en 2004. Racontez-nous, C'est l'un des plus longs matchs de l'histoire.
C'est le plus long à Roland-Garros.
Tennis, oui, à Roland-Garros.
C'est le plus long à Roland-Garros, 6h33.
C'est ça. Face à Arnaud Clément.
Face à Arnaud. Un match interrompu le lundi soir à tombée de la nuit à 21h30.
Ah bah ça va alors.
Tu pars, attends, 6h33 le jeu.
Voilà, donc après, je crois qu'on avait déjà joué 4h55 le lundi, donc j'étais déjà... bout du rouleau, je vais faire un petit peu de vélo pour récupérer. Et puis on me dit le soir en arrivant, enfin le médecin du tournoi et mon kiné m'avait dit en rentrant à l'hôtel, prends un bain chaud pour récupérer. Donc j'arrive à l'hôtel, mais j'arrive même pas à rentrer dans la baignoire. Donc j'ai dit non, c'est quand même compliqué, j'arrive pas à soulever les jambes.
Tellement vous avez découvert.
J'étais en morceaux, j'étais en miettes. En plus j'étais très tendu. C'était un match dans un contexte particulier où à l'époque c'était un peu tendu, ambiance. Équipe de France. Et puis le lendemain matin, quand je me suis réveillé, je me suis dit, mais comment je vais faire pour me lever? Puis comment il va falloir que j'aille à Roland-Garros et puis que je termine ce match. Et en fait, avec l'adrénaline, un échauffement de 45 minutes pour mettre en route la machine, j'ai réussi à aller au bout.
Et c'est pas le record du monde, parce que le record du monde est détenu par un autre Français, c'est Nicolas Mahut à Wimbledon face à John Isner. Alors là, c'était hallucinant.
Il a pas battu, 11h05 explosé. Minutes.
Combien
11h05 sur 3 jours.
C'est le mec qui était très grand, là.
Ouais,
une grande perche.
Un truc de dingue. Mais là, c'est vraiment un truc de dingue.
En même temps,
le match a duré tellement longtemps qu'il passait, 70... il passait la tondeuse pour couper l'herbe entre les balles.
Cinquième set, 70 à 68.
Mais là quand, dans tu le dernier perds, set. Quand tu le perds, ce match, c'est atroce. Tu dois pas te.
Ah bah là, Nicolas, il était effondré. D'ailleurs, il était complètement perdu à l'issue du match. Il est tombé dans les pommes sous la douche. Enfin, il était hors du temps, quoi. Il était
alors que là, Fabrice a gagné.
Non, mais le match que l'on a joué avec Arnaud à Roland-Garros, c'est quelque chose qui pourrait potentiellement se reproduire. 6h33, ça peut arriver. Nico et John Isner, pour moi, ça fait partie. C'est comme si Rafa gagne Roland-Garros une 10e fois, ça n'arrivera plus jamais.
Et aujourd'hui, vous pourriez tenir combien de temps? Parce que vous aviez déclaré à l'époque, c'était assez drôle. Si j'avais 32 ans, j'ai tenu 6h33, je pourrais faire 5h33, mais 33 ans et ainsi de suite.
Aujourd'hui, j'ai eu du mal à arriver jusqu'au plateau.
Voici l'humeur de Guillaume Ruiz.
Oh là là.
Allez. Bonjour les amis.
Salut.
Bonjour.
Salut.
Alors,
comme vous l'avez certainement constaté en lisant la rubrique nécrologie des journaux français de tradition, Jean-Marc Thibault nous a quittés il y a quelques jours. Et avec lui, je dois bien l'avouer, un pan entier de mon innocence. Oh, qu'est-ce qui t'a fait, Jean-Marc Thibault? Qu'est-ce qui t'a fait à ton innocence? Parle, un truc inavouable, ça s'est passé en Belgique? Non. Calmez-vous, Leïla. Je vous ai dit que si une personnalité publique s'en prenait à ma pudeur, vous auriez le scoop. Ce que Daniel Morin a essayé de me faire, j'ai vérifié en tant que tel, c'est pas répréhensible d'un point de vue purement légal. Donc patience, on l'aura. Mais patience. Donc réussis tout ça à simplement. Pendant un moment, j'ai un ami dont je tairai le nom, mais dont le patronyme finit par Hermoguiz, qui s'amusait à plaisanter en société sur ces personnalités qu'on croit disparues, mais qui ne le sont pas encore. Vous savez, ce genre de blague, là, Daniel Darieux, 10 ans déjà, Charnas Zavour, chante avec les nuages, petit ange, etc. On fait ça tout le temps, autour de cette table.
Ils les enterrent tous les jours.
On fait ça tout le temps, autour de cette table, sous l'impulsion de Nagui, naturellement, dont c'est la forme d'humour préférée avec les blagues sur la communauté homosexuelle. Et je m'en veux, c'est vrai, moi j'étais un type bien avant de vous croiser ici, et depuis je ne suis que la fange de moi-même. Alors, en l'occurrence, j'ai fait des vannes pendant des mois sur le fait que Jean-Marc Thibault était mort, et là du coup il est vraiment mort. Et je me sens triste.
Honte sur toi.
Je me sens triste comme le dernier tuc du paquet, parce que sa disparition nous rappelle que le temps passe. Et toujours dans la même direction, c'est unilatéral, parfaitement prévisible et foutrement irrévocable en fait. Ça m'étonnerait que dans 10 ans, on voit débarquer Jean Dormesson sur le plateau du JT avec deux bimbos russes, un cigare et des Santiac, en criant 100 ans, putain, c'est le nouveau 30 ans, j'ai une c'est patate, mon petit pijadas, et puis je soulève de la fonte et que je cours 8 kilomètres par jour, je pourrais bouffer un cheval. Non, ça va pas se passer comme ça, déjà parce que pijadas n'y sera plus, lui aussi. Victime du temps qui passe, leader unique et invaincu de ce grand sport cruel qu'on appelle... la vie. Et je tiens à remercier Eric-Emmanuel Schmitt, sans qui cette formule n'aurait jamais pu voir le jour. Mais c'est vrai, on peut rien faire contre le temps qui passe et qui nous emmène inéluctablement vers la fin. Pas vrai, Maréchal?
Affirmatif.
Ah ben voilà, c'est aussi pour ça que, comme vous, moi j'ai un petit peu mal au cœur pour Jean-Marie Le Pen en ce moment, vraiment. Ouais. Alors je vais être très clair, j'ai pas de sympathie particulière pour Jean-Marie Le Pen. Ma période fasciste, je l'ai eue comme tout le monde, j'en suis revenu. Aujourd'hui, je peux regarder des bottes dans un magasin sans la moindre nostalgie. Voilà, c'est ce que j'ai appelé ma crise de la trentaine. Maintenant, je suis passé à autre chose et je voudrais qu'on me laisse tranquille avec ça. Mais dans cette configuration précise, celle de la brouille avec sa fille, je trouve ça un peu triste. C'est triste que le temps joue si froidement en faveur de Marine Le Pen. Le vieux Le Pen, dans 5 ans, il aura 1000 ans. Il pourra jamais plus renverser la situation. On sent bien que plus le temps passe, plus leur contentieux va se régler de lui-même. En fait, c'est terrible. Et je promets, c'est dur d'avoir de la compassion pour un type comme Le Pen. Je crois que je le verrai dans la pire situation du monde, genre enfermé par l'État islamique dans la guitare de Christophe Maé. Enfin, le truc que tu souhaites même pas au type qui t'a volé ton auto. Eh ben, j'aurais du mal à l'aider. Mais là, face au temps qui passe, on redevient tous des amas de cellules impuissants. Regardez Francesco Totti, par exemple, footballeur mythique de la AS Roma. Énorme.
Chaque année, on se disait, ça va être la dernière, tu vas voir. Ça... Et ben là, vraiment, c'est la dernière. Il a été proche de 40 ans, 40 ans, un âge auquel je suis même pas sûr de pouvoir assurer une quelconque, quelconque forme de turgescence en cas de rencontre romantique à forte teneur en conclusion horizontale. Ça porte le respect. Mais là, c'est vraiment fini. C'est pareil pour Fabrice Santoro. Et je m'en veux de vous citer si près de ma turgescence et de Christophe Maé. Mais je doute que vous puissiez, vous, décider dans 15 ans, tout d'un coup, de revenir au tennis pro pour aller apprendre les manières à la nouvelle génération. C'est vrai, le temps est trop fort pour nous, les amis. Le temps est trop fort. C'est pour ça que je dis, on critique beaucoup l'alcool. Mais ça permet quand même d'oublier pas mal de trucs. Pas vrai, Lila? On est bien d'accord. Allez, bonne émission, les amis.
Merci, Guillaume.
France Inter, Nagui, la bande originale.
Roland Garros, c'est jusqu'au 11 juin, c'est ça, hein,
les législatives, premier tour.
Ah oui, d'accord, je
pardon,
pas
je pète
ça.
L'ambiance à chaque fois. Ouais, c'est mon rôle.
Donc,
en fait.
le 10 juin, il y aura la finale dames et le 11 juin, la finale messieurs. Si la météo ne vient pas tout décaler, parce qu'il peut aussi, malheureusement pour Roland Garros, pleuvoir, il n'y a pas encore de cours couverts. Ouais. Ça fait partie des projets, ça arrivera, Fabrice.
Bah, écoutez, Roland Garros, c'était le premier tournoi à penser couvrir un cours. Pour étant du Grand Chelem, il sera
faire.
Le dernier à l'avoir.
Vive voilà. La France.
Voilà, je voulais dire. Mais bon, donc parfois les choses n'avancent pas aussi vite qu'on aimerait en France.
Sur la page Wikipédia,
on part sur. Je crois qu'on parle au départ de 2015, puis 2018. Maintenant, on est sur 2020. Et...
C'est Guy Forget qui se bat pour ça.
Guy est directeur du tournoi depuis. Il fait sa deuxième. Deuxième année. Il se bat, bien évidemment. C'est un chantier, c'est le cas de le dire. Mais je crois qu'on est plutôt sur la bonne voie.
Oui, on est parti sur la bonne voie. Non, mais c'est indispensable maintenant.
La finale, je veux pas dire de bêtises, elle a déjà eu lieu un lundi.
Oui, c'est déjà arrivé. Ouais.
Tellement c'était décalé, ça ne pouvait pas arriver le dimanche.
Bah voilà.
D'accord, exactement. Okay. On va évoquer quelques dates de votre carrière, Fabrice Santoro, et mise en musique avec ce que vous écoutiez par exemple en 1984. Là de vous chercher un peu pendant l'échauffement, tous ces échauffements comme ça.
Arrête.
J'ai adoré ça. Wham, George Michael, Wake Me Up Before You Go Go. La musique a toujours été présente dans votre vie?
Toujours. Toujours 45 tours, 33 tours, Walkman, CD. J'ai voyagé avec
MP3.
Et voilà, exactement.
78 tours.
La totale.
Non, mais voilà, la pochette de cet album, je la revois encore. Et j'étais en sport études à Nice en 84. Que des bons souvenirs.
Justement, cette période-là, vous doutiez du sport dans lequel vous alliez exceller entre le football et le tennis? Il fallait faire un choix?
Tout à fait. En 84, là, au même moment, j'ai eu deux propositions pour intégrer un sport-études tennis à Nice et un sport-études football à Toulon. C'était donc le premier choix important de ma vie.
Ça s'est joué à quoi?
Je pense que j'ai plus un caractère pour un sport individuel. J'assume, mais...
C'est péjoratif de dire ça? Quand vous dites j'assume.
Non, j'assume.
J'aime pas les autres.
Non, mais je crois que d'une manière générale, non, c'est pas ça, puisque j'ai plein de bons souvenirs en équipe également, mais j'aime bien faire mes choix et décider de ma vie. Mmh. Et je crois que dans un sport d'équipe, on décide un peu moins, on dépend d'un entraîneur, d'un président, d'un capitaine. Et alors qu'en tennis, quelque part, si vous êtes le meilleur joueur au monde, vous serez un jour numéro un mondial. Mmh.
1988-89, vous écoutiez Francis Cabrel. Pendu à mon cou comme une liane, comme le roseau de la sarbacane. Le ciel s'est ouvert par endroits depuis toi. Francis Cabrel, sarbacane. Quand on est joueur de tennis professionnel et qu'on a comme ça des idoles, des stars que l'on admire comme Cabrel, est-ce que le fait d'être joueur connu et reconnu vous permet de les rencontrer, vous permet de jouer avec eux? Je sais que Francis adore jouer au tennis. Est-ce que vous avez déjà échangé des balles avec lui?
Échangé des balles, non, mais on s'est rencontrés quelques fois. Et je vais vous dire une anecdote, vous vous en souvenez peut-être pas, mais en 86, j'étais en
prison,
en internat, en internat à Vincennes, à l'INSEP.
Ouais.
À l'INSEP, et j'avais dans ma petite chambre j'avais donc 13 ou 14 ans, et j'avais dans ma petite chambre des posters d'Elsa à l'époque de Tant
oui,
Papa.
Bien sûr.
Et quelques années plus tard, j'avais fait des pieds et des mains pour
la bande originale du film La femme de sa vie.
Voilà. Et j'avais fait des pieds et des mains avec mon meilleur ami David pour venir dans Taratata. Et donc en juin 93, en plein milieu de Roland-Garros, alors que vous receviez Elsa, j'étais venu dans le public. Pour alors la ça, rencontrer, pour la voir.
Je me souviens pas de vous, voilà, mais d'elle, oui, dans Taratata, oui.
Voilà, donc et c'était pour, en juin 93.
Et pour l'anecdote, c'est l'un des Taratata qui a fait le plus gros score d'audience, parce qu'on se moquait d'Elsa en disant c'est la petite fille gentillette, il y avait toujours cette concurrence, cette guéguerre avec Vanessa Paradis qui était plus rock'n'roll, plus trash, et Elsa qui était plus gnangnan, plus fille à son papa. Le plus gros carton d'audience, c'est Elsa.
En même temps, le fait que Fabrice Santoro se jette sur elle pendant l'émission,
ouais, ça a aidé. Ça a aidé le buzz.
Et pour aller au bout de cette anecdote, donc moi à l'époque j'étais ultra rigide, je me couchais à 10h tous les soirs pour être en forme le lendemain, et donc j'étais venu dans votre émission, du coup je m'étais couché à 1h, la veille de mon double mix avec Marie Pierce à Roland-Garros, puisqu'on était en plein tournoi, et comme je m'étais couché tard, j'avais mal dormi, et je me suis cassé la main le lendemain, et j'ai eu 3 mois de plâtre.
Je suis désolé.
Sur le cours numéro 13 à Roland-Garros.
Je suis désolé.
Nagui, t'es vraiment une saloperie. Voilà.
Et donc, il est revenu aujourd'hui me mettre sa main, cette fameuse main dans la gueule.
Il est plus plâtré, parce que sinon ça aurait été fait. Mais...
Vous soulignez que c'était sur le cours numéro 13, ça veut donc dire que...
Bah, c'était quand même en 93.
Il y a une part de superstition, ouais, évidemment.
Un sportif qui n'est pas superstitieux est un menteur.
Et vous, ça joue jusqu'où, la superstition ? C'est la façon de ranger son sac, c'est la façon de sortir en premier, je sais pas, le short ou les chaussettes, c'est quoi ? Ça peut être tout ça ?
S'il y a une échelle sur le cours, vous passez jamais en dessous.
Ça, bon.
Non, mais c'est à tous les niveaux, c'est quasiment du réveil au coucher, mais je pense pas que ça concerne uniquement les sportifs, à mon avis c'est la même chose pour les artistes, probablement pour les journalistes, je sais pas. Mais lorsque vous regardez les joueurs évoluer dans un vestiaire, on voit très bien qu'il y a toujours un Nadal, il prend le même casier Roland-Garros depuis des années, pareil pour Federer, il a ses bouteilles qui sont là.
Attends, mais Nadal, ça dépasse ce simple cadre de vestiaire. Regardez sur un court Rafael Nadal.
Il marche pas sur les lignes.
Il place ses bouteilles d'une certaine façon.
Il marche pas sur les lignes entre les points. Hein.
Entre.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça.
Imagine.
Ah non.
Non mais regarde.
Et neuf Roland-Garros gagné comme ça, bravo.
Sur respect.
T'imagines s'il marchait dessus.
Non mais regardez, il a des tics. Regardez, il a toujours un processus autour de.
Ah mais le tic le plus choquant, c'est celui où il enlève le short de.
C'est des tocs, gratte le nez.
Du périnée, oui, ça c'est sûr.
C'est vrai quand on rentre sur le court, il gifle les ramasseurs de balles un par un.
Et vous, Fabrice, alors un truc, un geste fort, vraiment, si on devait vous caractériser.
Il a gardé le même slip pendant toute sa carrière.
Et d'ailleurs,
non, mais j'ai déjà lavé mon polo par exemple le soir, parce qu'il me faisait gagner, donc je voulais qu'il soit propre le lendemain.
Ah ouais, d'accord.
Donc je fais un petit coup de savonnette. Alors, le soir, et le lendemain j'arrive avec le même polo. Pendant 20 ans, je suis rentré sur le terrain, j'ai pris la chaise à droite de l'arbitre.
D'accord.
Voilà, plein de les mêmes douches dans un vestiaire.
Le côté droite ou gauche par rapport à la chaise de l'arbitre, c'est les joueurs qui choisissent ou c'est un tirage au sort ?
C'est les joueurs, c'est le premier qui rentre sur le terrain qui choisit.
Et si on vous la prenait la chaise ?
J'arrive en deuxième et qu'elle était prise, non, je prenais cette
rien à dire. Mais le mec, il venait à 6h du matin en même temps. Hein. C'était pas possible.
Il est où? Non, il est déjà là-bas.
Alors, justement, puisque nous parlions des années 88-89 avec Francis Cabrel, cette période-là, vous êtes professionnel. Et vous gagnez Roland Garros junior. Donc, ça doit être aussi là quelque chose, un événement qui doit piquer aux yeux et au cœur, non?
Oui, parce que c'est mon premier Roland-Garros chez les seniors, où
à 16 ans.
Un match en 5-7. Je n'ai que 16 ans et donc je joue la deuxième semaine du tournoi, la compétition des juniors. Je gagne l'épreuve, donc on face à un Américain, 8-6 au troisième, déjà un gros combat. Et j'arrive, je me souviens, en conférence de presse, Fabrice Abgral devait déjà être là, et on me dit, Fabrice... ce que tu viens de réaliser est fantastique. Tu n'as que 16 ans et t'as déjà remporté le tournoi des juniors. Je dis oui, merci, c'est fabuleux. On me dit, on me présente en gros comme un génie. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que 24 heures plus tard, au même âge, Chang gagnait les seniors.
Et ça pique aussi.
Ah, ça fait mal. Ouais.
Ça pique. 1991, c'est la Coupe Davis et vous écoutiez évidemment. Ah bah oui, il faut assumer. Alors, je sais pas si vous l'écoutiez vraiment, Saga Africa, mais...
Non, on l'avait dans le vestiaire, en fait.
Mais voilà ce que j'ai dit.
Il a dansé aussi.
C'est que c'était à Lyon. Ouais, à Lyon. Et là, vous vous souvenez peut-être pas, mais j'y étais. À Lyon, pour ce week-end de dingue contre les Américains, où on n'était pas d'ailleurs dans le public très sportif sur la manière dont on applaudissait les balles perdues par les Américains et dont on cherchait à les troubler, parce que l'équipe de France jouait vraiment à domicile. Mais c'est une histoire de dingue, ce qui s'est passé là.
C'est une histoire de dingue. Ouais, tout à fait, puisqu'on reçoit donc pour cette finale... un peu la Dream Team américaine, ouais. Avec Agassi, Sampras et une grosse équipe de double, hein, Flack Seguso qui était la meilleure équipe mondiale à l'époque. La France n'a pas gagné la Coupe Davis depuis 1932, donc 59 ans. Et on sait que le challenge est monstrueux, très très difficile, voire impossible à relever. Et puis il y a beaucoup de magie tout au long du week-end avec Yannick qui est capitaine depuis quelques mois seulement.
Il n'a pas joué la finale, Fabrice.
Non,
il a joué, ça fait mal.
Il y a eu un quart de finale décisif.
Oui,
quand même, à
Nîmes face à l'Australie.
Où vous avez gagné. Et de ne pas jouer justement, alors quand on dit c'est une équipe, c'est l'équipe de la Coupe Davis, on doit y aller, et puis il y a un sélectionneur, il y a un capitaine, Yannick Noah, qui décide de qui joue les simples, qui joue les doubles. On se sent humilié, écarté, rejeté quand on n'est pas choisi pour la finale, pour le moment où il faut conclure, honnêtement.
Sur le coup, ça a été une claque monumentale, ça a été la première énorme déception de ma carrière.
Mais c'est une déception humaine, sportive. Vous n'étiez pas en forme à ce moment-là, ou vous pensez que Noah vous en voulait de quelque chose? C'est un problème humain qui s'installe.
Il m'en voulait de rien du tout. J'étais en très grande forme puisque j'avais battu dans les mois qui précédaient cette finale Agassi et Sampras en compétition. Donc j'étais, même si je n'avais que 18 ans, j'étais prêt à les affronter, en tous les cas selon moi. Maintenant, Yannick a fait le choix de l'expérience avec Henri et Guy, qui ont très très bien joué tous les deux durant le week-end. Henri a été extraordinaire, Guy a été extrêmement solide aussi. Hein. Il était d'ailleurs, je crois, 4e mondial à l'époque. Il venait de gagner Bercy. Et puis de toute façon, l'histoire lui a donné raison. Donc c'était un excellent choix de sa part.
Oui. D'accord, mais j'ai quand même lu un article où on disait que Yannick Noah vous avait humilié.
Non, humilié, non. Il m'a fait énormément souffrir. J'ai beaucoup pleuré. J'étais un gamin qui regardait Yannick un peu comme un grand frère, voire un père. Il m'avait donné ma chance 6 mois plus tôt à Nîmes. Il m'avait porté sous ses épaules. Je me voyais jouer cette finale. Donc forcément, la déception a été énorme. Et puis, ce qui m'avait un petit peu déçu, c'est que c'est pas lui qui me l'avait annoncé, en fait. Voilà.
Donc c'est en dehors des cours aussi où l'humiliation a été...
C'était dur, mais c'est bien ça.
Il a eu un beau geste, Yannick. Il l'a fait venir, évidemment, à Lyon. Il y a eu la remise des trophées. Et Yannick Noah, qui devait recevoir un trophée, a donné son trophée à Fabrice. Lui n'a pas le trophée de 1991, Yannick Noah, alors que Fabrice là, et par ce geste, il a voulu le remercier, notamment.
Je me souviens de ce geste sur le terrain, lors de la remise des trophées.
Puisque c'est Fabrice qui avait qualifié la France en quart de finale face à l'Australie.
1997, vous écoutiez Jean-Jacques Goldman. Moi, les mots ne servent à rien. Autre fan de tennis, d'ailleurs.
Ouais.
Passionné de tennis aussi. S'il te faut des phrases en otage. 97, c'est l'année où votre papa devient votre entraîneur. Pourquoi il l'a pas fait avant?
Parce que mon papa était ouvrier à l'Arsenal de Toulon, travaillait dans la marine, et à l'inverse de beaucoup d'autres pères, il n'a jamais voulu dépendre de son fils. Donc il m'a dit, voilà,
financièrement.
Ouais. Il m'a dit, si demain j'arrête de travailler pour t'entraîner, il faut que tu me donnes un versant de salaire. Et hors de question.
Il a
attendu d'être à la retraite pour m'entraîner. Et c'est à partir du moment où il m'entraînait que j'ai remporté les 35 titres de ma carrière.
On parle de Roland-Garros et de la très belle carrière de Fabrice Santoro qui est notre invité. On va en parler cette fois-ci de Roland-Garros avec l'historien de formation, parce que bah oui, Fabrice Abgral, au-delà d'être un excellent journaliste sportif à Radio France et d'avoir même eu le prix, le micro d'or pour le meilleur reportage radio, c'était d'ailleurs pour le match de Nicolas Mahut.
Oui, Nicolas Mahut, en 2010, deux fois je l'ai eu même. C'est pas grave, c'est pas grave.
Non, excusez-moi. Et en 2013 pour la finale femme à Wimbledon, ouais. C'est ça. Parlons de Roland-Garros, qu'est-ce qui fait que c'est un tournoi mythique? Qu'est-ce qui fait qu'il est apparemment différent? Alors évidemment, dans nos cœurs de Français, oui, mais il semble résonner différemment par rapport aux autres tournois du Grand Chelem.
Bah, d'abord parce que c'est l'un des plus vieux. Ce n'est pas le plus vieux, mais c'est l'un des plus vieux, puisque vous savez que le stade Roland-Garros a été construit... pour les mousquetaires, il devait défendre la Coupe Davis. Voilà, il devait défendre la Coupe Davis puisqu'il l'avait remportée aux États-Unis en 1927. Donc il a fallu fallait donc accueillir la finale parce qu'à l'époque, le vainqueur était qualifié directement pour la finale l'année suivante, mais il n'y avait pas de stade. Donc il a fallu en construire un en urgence. Et donc on a construit le stade Roland Garros et puis c'est le temple simplement de la terre battue quoi, voilà, tout simplement, c'est
celui qui a le plus gagné le Roland Garros, ça va être Nadal.
Ah oui, déjà il a le record, donc oui.
Non mais et pendant longtemps, je veux dire, impossible de le rattraper, comme
là,
le Fabrice Santoro tout à l'heure, ça va être dur de rattraper.
C'est quasiment impossible ce qu'il a fait là, enfin ce qu'il fait c'est phénoménal, comme disait Fabrice tout à l'heure, bon, oui, on a déjà du mal à remporter un tournoi du Grand Chelem, mais on a remporté 9 sur le même cours.
C'est vrai que le dernier français c'est donc Yannick Noah à l'avoir remporté, ouais. Pourquoi on rame autant? Qu'est-ce qui se passe avec le tennis français?
c'est tellement compliqué. On a tellement de talent en France. Et, on se pose chaque année la question. C'est vrai qu'on se pose chaque année la question.
Alors, c'est un problème de formation. Non, c'est un problème d'éducateur.
Non, parce que au niveau formation,
on,
la France fait partie des pays qui forment le mieux les joueurs de tennis. D'ailleurs, on est toujours cité.
Mais si,
on est toujours
cité. Ça se verrait.
Mais on est toujours cité en exemple. Après, est-ce qu'on ne protège pas un peu trop les joueurs? Ça, c'est peut-être la question qu'on peut se poser parce qu'ils sont tellement encadrés que qu'ils se reposent beaucoup sur. Sur
et pardon,
ceux qui les entourent.
Quand on voit des perles,
enfin, je sais pas, Fabrice peut peut-être aussi répondre à cette question-là parce que
quand on voit des perles en football comme Kylian Mbappé, qui est
mais il faut se rendre compte que on a une génération incroyable avec, enfin, j'ai presque envie de dire, bah, une génération incroyable avec les Tsonga, les Gasquet, les Monfils, les Simon. Enfin, c'est.
Bah non, ils ont pas gagné Roland Garros.
Non, donc... mais bon, ils ont atteint les demi-finales.
Quoi. Oui,
bon,
non, non, bah,
oui, ils ont atteint les demi. Alors, on va dire, oui, ça y est. Non, c'est pas suffisant.
Leur mental est pas assez fort. Vous parlez de l'encadrement qui est trop.
Non, mais
proche,
attention.
Qui...
Alors, attention. On va aussi relativiser beaucoup parce que ces joueurs-là, ils ont été confrontés à la génération Federer, Nadal, Murray, Djokovic. Allez-y pour les battre.
Ok.
Ils n'auraient pas été là. Ils n'auraient pas été là. Non, mais ils n'auraient pas été là. Peut-être qu'on
évidemment. Il y aurait pas d'adversaire,
mais avec
Dessy,
évidemment. Mais non, mais rendez-vous compte un peu que ces joueurs-là, ils ont remporté tous les titres du Grand Chelem depuis 10 ans. Enfin, un peu de choses près, évidemment, puisqu'il y a des exceptions. Mais ils ont remporté tous les titres du Grand Chelem. Ces joueurs-là sont, mais ils sont hors normes. Et encore plus Federer et Nadal.
Mais on n'est pas un peu dans la génération Poulidor, les Français, c'est-à-dire un peu maudit d'arriver.
Ouais.
Non, je sais pas, Fabrice.
C'est facile.
Oui, c'est facile. Bah,
lorsqu'on regarde le résultat avec la génération que vient de citer Fabrice, effectivement, on se dit qu'on a souvent été sur le podium, mais on n'a jamais été sur la plus haute marche. Après, moi, je pense que la formation, c'est bien. On peut former des champions, mais on forme pas des très grands champions. On forme pas des génies. Federer est un génie. Donc, il est suisse, il y a rien. La fédération suisse, elle avait rien quand il est sorti, ou pas grand chose. Novak Djokovic, il est serbe. En Serbie, il y a pas de terrain, ou très peu. Et ben aujourd'hui, il est numéro un mondial. Il a gagné. Je crois 12 tournois du Grand Chelem. Donc ces joueurs-là ont quelque chose de plus que les autres. Ils sont différents dans leur ambition, dans leur vision du jeu, dans leur compréhension à tous les niveaux. Donc c'est pas parce qu'on a des cours d'entraînement chauffés avec des bains à remous et on soulève des haltères qu'on va gagner Roland Garros. C'est pas que ça.
Et qu'est-ce qui fait que Roland Garros est mythique alors pour vous?
Bon, parce que c'est le plus grand tournoi sur terre battue, c'est le seul grand tournoi sur terre battue. Sur dur, il y a l'Open d'Australie et l'US Open. Wimbledon, c'est le plus mythique. Parce que c'est le plus vieux. C'est le temple, d'ailleurs. Ouais. Hein, c'est le temple, Roland Garros.
Avec ses règles de vestimentaire, ouais, avec ses règles de comportement.
Fabrice peut parler aussi, c'est pas forcément.
Vous avez un problème avec les
fringues? J'étais choqué en début de carrière parce que oui, quand j'étais ado, avoir des shorts blanches, polo blanc, chaussures blanches, chaussettes blanches, je trouvais ça un petit peu rigide. Mais maintenant, je dirais que c'est.
Mais ça fait partie du charme.
C'est peut-être le tournoi, mon tournoi préféré avec Roland Garros. J'adore.
Ça allait même jusqu'à la couleur des balles qui a changé aussi à un moment donné.
Exactement. Moi, j'ai pas connu les balles blanches. Mais je pense jusqu'en 80-85.
À cause de la télé, ils ont changé la couleur des balles à cause de la télé.
Ah, ils sont quand même dans le business, hein, s'il n'y a pas de publicité autour du court.
Non, mais il est mythique parce que aussi c'est le plus dur, tout simplement. C'est le plus éprouvant. Enfin, c'est.
Oui, à cause de la surface,
Roland Garros, on parlait du pourquoi le Roland Garros était un tournoi mythique, c'est notamment
parce que la surface
ça,
terre battue est le plus fatigant,
physiquement
plus
c'est le plus exigeant quoi.
Ouais. Moi, je pense qu'aujourd'hui il faut être très affûté quelle que soit la surface parce que quand on prend le classement ATP en fait, c'est quasiment le classement des meilleurs athlètes. Ouais. Peu importe, il y en a un qui a un bon coup droit, service ou revers.
C'est le physique qui compte.
Ce sont tous dans le top 10 des monstres physiques. Et mais oui, le Roland Garros est le plus exigeant.
L'avenir de Roland Garros, c'est ce que l'on a dit tout à l'heure, son agrandissement, sa couverture.
C'est indispensable.
C'est même obligatoire. La Fédération internationale va imposer que ce soit couvert, sinon c'est Barcelone qui risquait de l'avoir pendant un moment.
Madrid.
Madrid, pardon.
Oui, enfin, ça c'était. C'est à mon avis. Oui, non, c'est un peu d'intox, à mon avis, pour mettre un peu de pression sur Roland Garros. Mmh. Mais non, c'est indispensable aujourd'hui. On l'a vu l'année dernière. On a pris beaucoup de retard. Il pleuvait. On pouvait pas mettre. Il y avait pas de toit. Donc c'est très compliqué. Tous les autres tournois du Grand Chelem ont un toit.
Cette année, il fait beau.
Cette année, il fait beau.
Les fleurs poussent.
Non, moi, la seule chose qui me dérange, moi, avec le toit, parce que d'abord, on va jouer en nocturne, et les conditions de jeu seront différentes. C'est-à-dire pour celui qui jouera le soir, enfin Fabrice peut expliquer techniquement pourquoi ça va changer, mais les conditions de jeu ne seront pas les mêmes. Il y en a qui joueront en night session, en session de nuit, d'autres qui joueront en pleine journée, en plein cagnard. Donc même physiquement parlant, ce sera plus facile de jouer le soir que de jouer en plein cagnard, comme c'est à l'Open d'Australie par exemple.
Voilà, c'est une question que se pose pas l'Open d'Australie. Cette année, Roger Federer, il gagne le tournoi sur les 7 matchs. Il en joue un l'après-midi, au deuxième tour, il en joue 6 la nuit.
On préserve les vieux.
Mais d'un autre côté,
c'est... ça dénonce là.
Non, mais c'était tellement fabuleux pour le tennis que Roger Federer remporte l'Open d'Australie. Et puis encore une fois, il y a des enjeux sportifs. Mais il y a des enjeux économiques très très importants.
Vous restez avec nous, Fabrice, si vous en avez le temps. Fabrice Santoro est notre invité jusqu'à 12h30 dans la bande originale.
France Inter, Nagui, la bande originale.
C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadoboudé.
Bonjour à tous,
Daniel Morin.
Bravo Daniel.
Albert Algou, Guillermo Guiz. Bonjour. Et notre invité Fabrice Santoro.
Bravo.
Avec l'aide et le soutien de Fabrice Abgral de la rédaction de Radio France ou de France Inter d'ailleurs, parce que c'est
Radio France, la direction des sports de Radio France. Oula. Très précisément.
Il comprend
France Inter, France Info, France Culture, enfin, c'est tout quoi.
Je peux te toucher parce que je sais que tu seras encore là quand moi j'y serai plus. Fabrice Santoro est notre invité. Nous parlons de Roland Garros avec les belles heures qu'il a vécues à Roland Garros, qu'il continue de vivre d'ailleurs de l'intérieur, aussi bien pour ITV, la chaîne anglaise pour laquelle il est consultant, que sur le terrain pour interviewer dans une sorte de réseau interne de diffusion, la chaîne de Roland-Garros, pour interviewer les joueurs à la sortie du terrain, et sur Bein Sports le reste de l'année pour différents tournois du Grand Chelem. Tout à l'heure, on se demandait avec Fabrice Abgral ce qui était mythique. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous reprenez la voiture, le taxi ou la moto, que sais-je, et que vous arrivez à Roland-Garros? C'est l'endroit, le lieu, il y a quelque chose dans le parfum, dans le décor qui vous émeut?
Oui, parce que c'est une grande partie de ma vie. La première fois que j'ai joué les juniors à Roland-Garros, je dormais dans le stade. J'étais interne.
Il y a un dortoir à Roland-Garros?
Il n'existe plus puisqu'il a été démoli l'année dernière, il y a deux ans, le CNE, le Centre National d'Entraînement. Et moi, j'étais au deuxième étage, j'avais ma chambre, avec ma petite salle de bain, j'étais interne. Donc, deuxième étage, je dormais. Au rez-de-chaussée, je prenais des cours. Je devais être en troisième à l'époque. Et au moins un, j'allais à la gym. Et au moins deux, je m'entraînais. Donc, je vivais dans un bâtiment. Et puis, pendant Roland-Garros, je sortais de ce bâtiment pour aller jouer.
Tu avais le droit de sortir une fois par an du bâtiment.
Non, mais à Noël, il avait le droit d'avoir ses parents.
Vous savez qu'il y avait un mur qui séparait l'aile des filles de l'aile des garçons.
Normal.
Et vous l'avez escaladé combien de fois celui-là?
Le marteau.
On parle de l'entraînement physique. Tout à l'heure, vous avez dit c'est pas donné à tout le monde d'être un génie. On ne devient pas un génie. C'est-à-dire qu'il y a un don. Donc, et pour que ce don devienne talent, il faut qu'il y ait du travail. Est-ce que l'hygiène de vie, on sait que l'hygiène de vie est importante. C'est pas la question n'est pas de savoir est-ce que c'est important, mais est-ce que il y a eu des progrès dans la nutrition, dans le diététique, dans le médical que vous voyez aujourd'hui
à tous les niveaux. Je pense que quand on arrive en haut de la pyramide, ça se joue vraiment sur les détails. Donc il ne faut rien laisser au hasard dans la préparation physique, mentale. Tout à l'heure, je vous parlais des années 90 où un joueur débarquait avec son entraîneur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsque Roger Federer arrive sur un tournoi du Grand Chelem, ils sont entre 15 et 20 personnes.
Autour.
Ouais.
Donc il y a quoi? Il y a un nutritionniste, un docteur, il y a des kinés,
Déjà, il y a Roger, sa femme.
Il peut y en avoir.
Quatre enfants et trois nounous. Donc déjà en cercle
rapproché,
ils sont neuf.
Ok, mais ça c'est la famille, ça c'est pas.
Mais après, il y a le manager, il y a l'assistante, il y a deux entraîneurs tennis, il y a le préparateur physique, il y a le kiné, il y a le cordeur.
Il y a un gourou?
Il n'y a pas de gourou non plus.
Un garde du corps, c'est une protection.
Djokovic.
Et puis, je parle même pas de la sécurité.
Ouais. On dit que Djokovic est un gourou.
Djokovic a un gourou à l'heure actuelle, oui.
Ah ouais,
mais c'est le seul.
C'est quoi un gourou là dans ce cas-là?
C'est un psy. C'est quoi? C'est
oui,
ah non, c'est pas un psy. C'est une personne qu'il a rencontré et puis qui lui a monté la tête, le pauvre. Et puis d'ailleurs, depuis qu'il l'a rencontré, il joue plus quoi. Il gagne plus donc.
Ouais, c'est non, mais voilà, c'est vraiment un gourou puisque c'est.
Non, mais c'est vrai. Non, mais Fabrice peut en témoigner. Depuis qu'il l'a rencontré,
il a basculé.
Il est plus, oui, il est plus le même.
Et c'est lui qui avait un régime diététique particulier sans gluten, je crois, ou un truc comme ça.
Sans gluten. Il a voulu lancer une mode. Je sais pas si ça a véritablement fonctionné au sein des joueurs, mais c'est vrai que.
Oui, bon, dans Paris intramuros, oui, ça a très bien fonctionné dans une certaine catégorie de bobos.
Mais au sein des joueurs, je suis pas certain. Oui, il y en a sûrement d'autres. Oui, il a un régime sans gluten. Oui.
Que mangent les joueurs de tennis? Ça mange de tout ou la réputation de dire il faut manger des pâtes pour
sucre lent. Beaucoup de sucre lent. Moi, quand j'étais en pleine carrière, j'avais tendance à prendre vraiment le repas du midi, c'était systématiquement un plat de pâtes, un gros plat de pâtes, et puis des protéines en fin de journée, poisson, viande blanche et puis viande rouge peut-être deux fois par semaine maximum.
Ça, c'était le vôtre. Est-ce qu'il y a des modes de dire le tout protéine ou au contraire le zéro protéine? Est-ce qu'il y a des végétariens ou des sans gluten qui sortent comme la tendance du moment le veut?
Moi, j'ai pas mal discuté avec des médecins, des spécialistes qui me disent que le sans gluten, il y a deux cas de figure. Soit vous êtes allergique,
c'est une maladie,
ouais. Votre corps n'accepte pas le gluten, à ce moment-là, vous n'en prenez pas. Soit vous avez une légère intolérance. Mais vous pouvez quand même en prendre, mais il faut rester raisonnable. Soit ça n'a aucun sens.
Et le tout protéine?
Tout protéine, j'ai pas entendu
que
ça.
Que de la viande blanche, que des œufs, que des parce que
je sais pas si ça pourrait fonctionner.
La rumeur dit que la force vient des protéines, non?
Oui, mais est-ce qu'on peut jouer un match de 4-5 heures avec simplement, je sais pas, 400 grammes de protéines?
Et qu'est-ce qu'ils mangent entre? Parce qu'on voit de plus en plus maintenant, il y a les écrans de pub. Avant, c'était sympa de voir, de rester sur un joueur et de voir quelles étaient ses habitudes. Est-ce qu'il, je sais pas, ses cordes, est-ce qu'il change de raquette, est-ce qu'il fait autre chose? Bref, pendant cette minute, c'est ça, pas plus.
Ouais.
On a le droit de manger, de boire, de partir faire pipi.
On a le droit, on a deux pauses toilettes, je crois, sur un match.
Ah ouais.
T'as une gastro, t'es mort, quoi, en fait.
J'ai une anecdote en Coupe Davis. Ils avaient donc grillé leur temps de pause. Il y en a qui ont été obligés de faire pipi dans des boîtes de balles.
Sur le terrain?
Sur le terrain.
C'est moche. Je comprends que là, ils montent pas tout à l'antenne. Ouais.
Il y en a à la minute 30 de pause qui fument des clopes ou pas?
À part toi, tu veux dire?
Moi, j'ai une autre anecdote. En 92, je suis en quart de finale des Jeux Olympiques de Barcelone. Ça me paraît bien, bien loin. Et je joue contre Goran Ivanisevic. Il fait plein mois d'août à Barcelone ou fin juillet. Il doit faire 45 degrés ou 42. Et je joue contre Goran Ivanisevic. Donc, le match dure pratiquement 5 heures. Je bois 10 litres. Je bois 10 litres pendant tout le match sans aller aux toilettes.
Aïe, aïe, aïe.
Tellement, ouais, mais
tellement j'ai transpiré.
Sauf que tu éliminais en transpirant et pas en faisant, c'est ça. Mais...
Ouais, mais ça paraît improbable de boire 10 litres sans aller aux toilettes.
C'est énorme.
Moi, je sais pas si sur toute ma vie j'ai bu 10 litres.
10 litres d'eau, non.
Je crois que j'ai bu 10 litres d'eau sur toute ma vie. Ma mère, il faut que j'appelle ma mère tout à l'heure.
Et manger des fruits, et pourquoi la banane? La banane, ça permet de quelque chose de particulier physiquement, musculairement?
Ça évite les crampes, paraît-il.
Ah, paraît-il, ouais, la banane, mais ça peut être aussi des barres de céréales, des fruits secs.
Les boissons énergisantes.
Aujourd'hui, il y a plus un joueur qui boit que de l'eau pendant un match.
Donc ces boissons énergisantes.
Oui, tout à fait.
Ou pinard.
Qui sont légales, entre guillemets.
Qui sont toutes légales, bien évidemment, puisque tous les joueurs sont contrôlés. Si ça n'a pas changé, je crois qu'à Roland-Garros, à partir des quarts de finale, tous les joueurs sont contrôlés.
Antidopage, il n'y a pas de tirage au sort comme avant, quoi.
Il y a des tirages au sort sur les premiers tours.
D'accord.
Et c'est systématique à partir des quarts de finale, avec aussi des tests sanguins pour, qui peuvent tomber à n'importe quel moment. Parfois, on a un peu l'impression d'être un cheval, hein, quand on est comme ça, sorti de haut niveau. Vous venez jouer un match de 4 heures, vous arrivez dans le vestiaire, vous devez faire pipi dans un bocal. Après, on vous tend le bras, en prise de sang. Enfin, c'est un peu particulier.
La blessure la plus fréquente, c'était le tennis elbow qui avait.
Non, c'est le pénis elbow.
Non, le tennis elbow, mon père. Le tennis elbow, c'est la blessure la plus fréquente, c'est la douleur au coude ou ce sont toutes les articulations.
Qu'est-ce qu'ils disent après ça? Regarde.
Alors,
vous savez que le tennis elbow,
ça
ne dépend pas forcément du tennis. Non. Ça n'a rien à voir.
Ah, je pensais.
Non.
Le tennis elbow est une blessure du tennisman amateur. Et nous, on a un problème à l'intérieur.
D'accord.
L'épicondylite.
Aujourd'hui, vous continuez de jouer?
Je joue, oui, régulièrement. Enfin, je joue ça dépend des périodes, mais deux fois par semaine en moyenne.
Et vous jouez aussi avec des Nadal, avec des Federer, avec des joueurs qui sont encore dans le circuit?
ça m'arrive rarement, mais c'est vrai que sur la compétition qu'on a joué en Asie, j'ai frappé encore avec Nadal, Federer. Il m'arrive de jouer avec Richard Gasquet, avec Lucas Pouille. Voilà. Bah, après la balle, on peut toujours la frapper, quel que soit son âge. Enfin, ou en tous les cas, à mon âge, 44 ans, je frappe la balle la même façon que lorsque j'étais professionnel. Par contre, mon autonomie est divisée par 10.
Non, mais le toucher de balle reste, en tout cas.
On perd pas le toucher de balle.
Ouais. Nagui, il est très modeste. Mais il faut que vous sachiez quand même quelque chose sur Fabrice Santoro.
Qu'est-ce qu'il veut sortir?
Non, mais tous les joueurs sont admiratifs de Fabrice Santoro. Mais tous les joueurs. Alors, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui n'ait pas dit au moins une fois dans sa carrière que Fabrice était un joueur exceptionnel. D'abord parce qu'il jouait
des deux mains. C'est parce qu'il me battait les
mains. D'abord parce qu'il jouait des deux mains. Ce qui est quand même très rare.
Très rare sur sa clé.
Ce qui n'existe quasiment plus, d'ailleurs, qui n'existe pas.
On vous appelait le magicien. Enfin, Pete Sampras, vous appelez le magicien quand même.
Voilà. Pete Sampras, Federer. Moi, je me souviens d'un match à l'US Open contre lui, mais Federer, il a demandé au public d'applaudir Fabrice Santoro à la fin du match. Mais il se passait toujours quelque chose avec Fabrice Santoro sur un court. C'était un truc de dingue. Il avait un toucher de balle. Enfin, il a toujours, d'ailleurs. Il avait un toucher de balle phénoménal, et les joueurs prenaient beaucoup de plaisir à affronter Fabrice.
J'avais un jeu vraiment particulier, complètement atypique. Décalé, et j'avais pas la puissance des physiques modernes, des grands qui envoient des pralines en permanence, mais je jouais vraiment avec la balle.
Mais il y a un joueur qui ne le supportait pas, mais vraiment, c'est Marat Safin.
Ah mais non, n'en parlez pas, on va le faire.
C'était un cauchemar pour lui d'affronter Santoro.
Tiens, c'était réciproque, je crois.
À propos de cauchemar, voici Daniel Morin.
Ah, merci. J'ai pas entendu. Personne n'a entendu. C'est une joie, un bonheur, un ravissement que de recevoir aujourd'hui Fabrice Santoro. Fabrice, ancien fer de lance du tennis français, aujourd'hui commentateur, consultant télé chez les Rosbif. Décidément, c'est un bon jour que ce 2 juin.
C'est un excellent jour, TVDR.
Bonjour, mon père. Si je puis me permettre, en quoi est-il excellent pour vous?
Eh bien, espèce d'inculte, le 2 juin, on célèbre l'anniversaire d'un homme de goût, on peut le dire. On fête l'anniversaire du marquis de Sade.
Oh bah si vous allez par là, on peut célébrer aussi aujourd'hui le 64e anniversaire du couronnement de la reine d'Angleterre.
Mais non, on s'en fout de cette vieille bique. Le marquis de Sade, c'est autre chose enfin quand même.
En quoi vous passionne-t-il, le marquis de Sade?
Il me fascine par sa conception de la tendresse. Oui, ce cher marquis a marqué mon adolescence par ses récits plus brûlants les uns que les autres.
Vous avez fait des expériences suite à vos lectures?
Non, mais tu me prends pour qui, Daniel? Je suis un homme de Dieu.
Oui, c'est vrai, pardon, je ne sais pas ce qui m'a pris.
Bien sûr que j'en ai fait des expériences. La première fois, j'avais 19 ans. J'étais jeune séminariste, programme Erasmus, à l'abbaye de Pru, en Yougoslavie.
Oui.
Là-bas, je partageais ma cellule avec un prêtre albanais prénommé Rumpf, au caractère plutôt fougueux.
Comment ça, fougueux?
La nuit... Mais je vous en prie, ça me bouleverse quand j'y repense.
Ouais, ça se voit.
La nuit, il se levait pour tuer des chats. Et s'il ne trouvait pas de chats, il tuait des gens.
Ah oui, fougueux, les gars. Ouais.
Le matin, au réveil, il se flagellait en hurlant en latin à l'envers. Miserere, martinum, et prepus eclatis.
Ça te fait foutre une trouille pas possible.
Au début, oui. Puis la trouille a cédé la place à l'excitation. Une fois, il a croisé mon regard.
Et alors?
Je le regardais avec juste un œil qui sortait de ma couette en toile de bure sous laquelle je dormais nu. Et ça l'a rendu dingue. Il m'a tiré du lit par l'oreille droite qui a fini par céder. Il m'a attaché au bidet. Puis, comme dans l'œuvre du divin marquis, il m'a initié au délicieux tourment de la souffrance charnelle.
Ah, par des jeux subtils de tentation et de frustration, j'imagine.
Non, par des baffes dans la gueule.
C'est le marquis de Sade version Samina Seri.
Un peu, il est vrai. Je fais tomber mon gobelet.
C'est intéressant. Et qu'est-ce qu'il est devenu, Rumpf, l'Albanais?
Il est mort en bouffant un chat vivant qui l'a étouffé.
Écoutez, super mon père, on va pas parler du marquis de Sade éternellement. Hein. Et profitez-en donc pour saluer notre invité Fabrice Santoro, grand tennisman français à la retraite, mais fort sympathique, il est là à gauche.
Il a pas l'air malin.
Non, là vous regardez Guillermo Guiz, c'est pas Fabrice Santoro. Fabrice Santoro, il est encore plus à gauche. Là.
Ah oui, c'est beaucoup mieux. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Tu m'as l'air encore bien bâti pour un, pour un retraité. La dernière fois que j'ai parlé à une célébrité à la retraite, c'était Michel Sardou. Il est moins bien gaulé que vous, Michel Sardou. En même temps, quel chanteur. Là-bas.
Non, merci mon père, on n'a pas le temps de chanter du Sardou. Fabrice, je voulais vous demander, le tennis, on sent qu'il est en vous, on sent même que ça reste un sport, même si ça reste un sport individuel, le collectif, le partage, l'esprit d'équipe sont des valeurs primordiales pour y faire carrière, et ça, ça compte pour vous.
Oh parce... mon Dieu, mais ce que tu peux être chiant avec tes phrases à la Nagui.
Comment ça?
Mais oui, tes trucs là, le collectif, le partage, les valeurs, gna gna gna, excuse-moi, mais on dirait du Nagui.
Ouais, oui, c'est vrai, c'est pas faux. Bon, ça représente quoi pour vous le tennis, mon père? Dites-le alors.
Un sport de lavette. Ah. Un truc de petite fille. C'est du jokari sans élastique. Un truc de gonzesse.
Bah, c'est quoi pour vous alors le sport idéal?
Ah ben, la lutte, Daniel. La gréco-romaine, la seule qui vaille, mais attention, à l'ancienne, hein, ou bien à la turque.
C'est quoi?
Alors, à la turque, tu t'enduis le corps de lubrifiant naturel, comme de l'huile de colza par exemple, ou si tu n'en as point, tu demandes au premier garagiste un bidon d'huile de vidange.
Et après?
Une fois enduit comme une ukrainienne, tu prends ton adversaire à bras-le-corps et tu tentes de le plaquer au sol, puis tu te colles à lui pour l'immobiliser.
Vous avez pratiqué, mon père?
Oui, mais en amateur, à l'occasion de soirées festives entre camarades. D'ailleurs, ce soir, chez Monseigneur Di Falco, il y a une soirée lutte. Si ça vous intéresse, Fabrice, vous pouvez être mon plus sain.
Merci, mon père. Désolé, Fabrice. Je voulais parler tennis, courbature et art de vivre, mais là, désolé, on n'a plus le temps. Bon week-end.
Merci. Merci.
La bande originale, Nagui. Sur France Inter.
Fabrice Santoro est notre invité jusqu'à midi et demi et Leïla Kadour vous dédie à préparer un brouillon de culture.
Oui, Fabrice Santoro, je vous sors de la promo, on va dire un petit bol d'air, on apprend à mieux vous connaître et on commence par ce son. On va parler de Marat Safin, tiens.
Et on va aller tout de suite sur le cours Philippe Châtelier. On vit un match complètement fou. On s'était quitté tout à l'heure alors que Fabrice Santoro était un petit peu à la dérive. L'identiram est dans les tribunes et il se régale comme les 16 000 spectateurs du central avec un Fabrice Santoro qui mène 4-1 dans le 5e set. Service pour Marat Safin.
Roland Garros, on est en 2001, 3e tour et victoire contre Marat Safin. Marat Safin qui détestait jouer contre vous et vous qui avez déclaré que c'était votre victime préférée.
C'est vrai. Et pourtant,
il a encore le sourire.
C'est exactement ça.
Vous auriez dû l'inviter.
Une jubilation tout d'un coup.
Non, mais en fait, c'est une longue histoire entre Marat et moi, puisque il a été numéro un mondial, ce que je n'ai pas été. Il a remporté des grands chelems, ce que je n'ai pas fait. Et il était plus grand, plus puissant, plus jeune, et il avait tout pour me battre. Mais à part que avant même que l'on s'affronte la première fois, il avait décidé qu'il n'avait aucune chance de me battre, puisque c'était, je crois, de mémoire, en 99, quand il a gagné son premier Bercy, en conférence de presse, il arrive derrière, on lui dit bon ben bravo pour votre tournoi, etc. Dans 3 jours à Moscou, devant votre public, vous allez affronter au premier tour Fabrice Santoro. Mm-hmm. Et il dit non, j'ai aucune chance de le battre. Mais il était genre deuxième mondial et moi j'étais 25e.
Et pourquoi?
Parce que il trouvait mon jeu compliqué à lire. Et donc il avait décidé qu'il ne trouverait pas les clés. Et bien évidemment, on part à Moscou, je le joue. Je le bats, et une fois, et deux fois, et trois fois, et je l'ai battu 7 ou 8 fois, je crois.
Mais c'est bizarre.
Il n'a gagné que 2 fois.
Oui, mais c'est étrange qu'un grand champion comme Marat Safin, vous avez rappelé son palmarès, ça vous vaincu avant même d'avoir joué contre vous.
C'est
et
là où, se dise pas, je vais. Tu vois que le mental.
Ils se disent pas, je vais, la prochaine fois, je vais mettre en place, parce qu'il devait avoir un staff autour de lui. Vous étiez connu quand même, Fabrice Santoro, pour être celui qui a étudié, hein. Vous étiez un peu l'ordinateur, je crois. Hein. Il y avait un truc, vous étudiez vraiment bien les joueurs, vous connaissiez vraiment leurs coups, vous regardiez vraiment très attentivement. Safin avait les moyens de faire un boulot comme ça ou de faire un boulot comme ça pour essayer de vous faire chanceler.
Oui, bien sûr, il avait les moyens, il aurait pu me battre plusieurs fois. Après, il y avait quand même des explications tactiques qui rendaient le problème compliqué pour lui. C'est-à-dire que je retournais systématiquement son service, je jouais à des zones qu'il n'aimait pas. Lorsqu'on faisait les diagonales de revers, j'étais meilleur que lui. Voilà, quand je faisais la diagonale coup droit, je ne renvoyais que des balles basses, il détestait ça, il faisait des cauchemars. Enfin, il y a quand même beaucoup d'explications.
Pourquoi les autres joueurs n'ont pas fait comme vous à ce moment-là, si c'est aussi simple pour le battre?
Parce que ce que je faisais en coup droit ici, coup droit slicé dans la diagonale, aucun droitier joue ce coup. Donc il aurait peut-être eu des problèmes face à des gauchers qui jouaient ce même coup. Et puis moi je lisais particulièrement bien son service, qui était une de ses meilleures armes. Donc il me faisait quasiment pas d'ace. Je le faisais beaucoup jouer vers l'avant sur des balles courtes, des amortis. Et il était très bon latéralement, assez maladroit vers l'avant.
Ça allait jusqu'où l'énervement entre les deux?
Bon, bah, je pense qu'il a, il a failli faire couler une marque. Il a cassé 50 raquettes contre moi.
Il y a eu un coup de feu, d'ailleurs. Attends. Et d'ailleurs, Fabrice Amaral.
Ouais, parce que vous avez moi, j'ai toujours bien aimé Marat Safin. Et je connais très bien son agent, Gérard Sobagnan. Et j'avais dit un jour, et je fais collection de raquettes, comme Fabrice d'ailleurs. Je crois que t'as une belle collection. Mmh. Et j'avais demandé un jour à son agent, Gérard, est-ce que tu peux me récupérer une raquette de Marat Safin? Je fais collection avec, signée par Marat Safin. Il me dit, oui, il n'y a pas de problème. Et je dis, oui, mais j'en veux une cassée. Donc, ça n'a aucun intérêt d'avoir une raquette de Marat Safin qui ne soit pas cassée.
Écoute, il joue Fabrice dans deux jours.
Il me dit, ah bon? Il dit, oui. Et il m'a récupéré une raquette de Marat Safin après un match.
Contre Fabrice Santoro.
Contre Fabrice Santoro à Lyon. Il avait pris 606-3.
Il t'en a donné qu'une ou plusieurs? Il t'en a donné qu'une ou plusieurs?
Et il avait fracassé une de ses raquettes. Et voilà, j'ai eu une raquette de Marat Safin après une défaite face à Santoro.
Marat est un gars hyper, enfin, c'est en 2003. Drôle, très sympa. Et puis une fois, il débarque à Paris pour Bercy. Et, je le croise et il me dit, Fabrice, tu peux me laisser les, me donner les clés de ton appart? Je dis, mais pourquoi? Il me dit, bah, ça va, c'est moi qui te l'ai payé.
Et comment ça vous est venu, ce rapport à l'analyse du jeu des adversaires? Vous étiez un des rares joueurs à faire ça vraiment quand vous étiez encore sur les cours, d'observer tout ça. Comment ça vous est venu? Vous aviez envie de compenser quelque chose? Vous avez dit, il n'y a que comme ça que je peux m'en sortir? C'est quoi l'histoire?
Vous venez de le dire, c'est compenser quelque chose. J'avais moins de puissance que les autres, moins d'armes vraiment pour enfoncer un adversaire. Donc il fallait que je les amène sur mon terrain, la tactique, la stratégie, c'est de les mettre en porte-à-faux. Et donc je jouais un petit peu comme aux échecs.
Vous serez un bon coach en fait.
Oui, le jeu m'intéresse beaucoup, mais pour être un coach, il faut accepter de revoir sa valise dans la chambre 8 mois par an.
Et avant de vous faire un cadeau, une dernière question. Quand vous avez gagné le dernier match, c'était contre Chang, c'était le 27 mai 2003, vous gagnez face à Chang, c'est son dernier match de sa carrière. Est-ce qu'on ne regrette pas d'avoir gagné dans ces cas-là?
Non, du tout.
Non,
Michael Chang a eu une très belle carrière. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'émotions le jour où je suis sorti de son dernier Roland-Garros. Mais non, malheureusement, ce qui prime en sport, c'est quand même la victoire.
Et je finis avec un cadeau, c'est l'histoire d'un grand champion, c'est Sébastien Destremau, on en a pas mal entendu parler, c'est le dernier à avoir franchi la ligne pour le Vendée Globe. Il sort un bouquin seul au monde, lui il a passé 124 jours sur mer, parce qu'il n'y a pas que le gagnant dont l'histoire est intéressante.
C'est marrant, juste après que Fabrice Santoro ait dit comme phrase, ce qui prime dans le sport, c'est la victoire. Toi tu dis, l'important c'est de participer.
Eh ben ouais, parce que Destremau...
Eh ben non, il y en a marre de l'important c'est de participer, l'important c'est de gagner, on s'en fout d'être des losers.
Ben non, c'est l'histoire d'une vie, il a 52 ans, il a 5 enfants et il avait
et
envie de tenter sa chance et il s'est dit tiens je vais m'engager sur ce Vendée Globe et ben il a fini dernier certes mais pour le coup lui son histoire moi je la trouve passionnante.
Ouais. Des excuses à présenter Daniel Morin.
Bien sûr, désolé pour les fans de Nagui et Yannick Noah qui ont découvert les deux salauds qu'ils étaient avec Fabrice Santoro. Alors loin de moi l'idée de verser dans le racisme mais quand même Nagui, Noah, ça commence à bien faire.
Ça va
là.
Pas non.
Désolé pour l'orthophoniste du père Albert, non seulement on a pu l'entendre, il a de gros problèmes de diction, mais je vous préviens, docteur, il a une haleine de gréviste de France Culture. Courage, mon ami. Désolé pour Marat Safin, qui est à la retraite en ce moment et qui nous a écrit aujourd'hui depuis l'hospice de Sochi. Il paraît qu'après l'évocation de son passé commun avec Fabrice Santoro, il a pété une durite et fracassé son fauteuil roulant.
Merci Fabrice Amaral d'être venu nous apporter toutes vos connaissances sur le tennis.
Avec plaisir.
Merci mille fois Fabrice Santoro parce
merci
que
à vous.
Au-delà du grand champion que vous êtes sur les cours, vous êtes un mec excellent à fréquenter en dehors des cours. Et tout à l'heure, Leila Dion vous sort de la promo, il avait zéro promo.
Oui, ça,
et faut dire la vérité, je l'ai appelé en disant est-ce que tu viendrais parler de Roland Garros et ta carrière juste pour le plaisir de le faire. Et il l'a fait pour ce plaisir. Partagez en tout cas. Merci Fabrice, portez-vous bien. Sport encore avec Lyon. Thuram, l'émission donc enregistrée, que vous aurez lundi. Passez un bon week-end avec Philippe Bertrand maintenant pour les carnets de campagne.